voix nue. Cette semaine, France Culture rend hommage à Michel Piccoli, récemment disparu. En 2006, Laure Adler s'entretenait avec le comédien. Ce soir, jouez le roi Lear.
Merci Michel Piccoli d'avoir accepté cette proposition de À voix nue que j'avais formulée l'été dernier au cours d'une soirée magnifique à Nîmes où vous veniez de lire des extraits des livres de François Maspero et vous m'aviez dit d'accord pour les À voix nue, mais il va falloir être patiente parce que d'ici là, je suis en train de mémoriser le roi Lear. Il faut que je l'apprenne par cœur, il faut que je le joue, il faut que je l'interprète, il faut que la pièce soit terminée. Mais après, oui, vous avez tenu parole. À voix nue toute cette semaine avec vous, Michel Piccoli. Cette interprétation du roi Lear, vous l'avez tenue dans tous les sens du terme, au théâtre de l'Odéon, aux ateliers Berthier. Et je voudrais commencer par une séquence fulgurante. Vous, à moitié nu, vous qui interprétez le roi Lear, vous qui éructez contre votre fille, vous qui êtes entre l'enfance, la grande enfance, celle qu'on peut peut-être retrouver à un certain âge quand l'abandon de la vieillesse vous permet de retourner dans cette enfance si bienheureuse. Cette scène-là, comment l'avez-vous construite ?
Ah, quelle question ! Je ne me souviens pas du tout. Dans la douleur, d'abord, avec beaucoup d'hésitation, avec beaucoup de crainte, beaucoup de timidité. Mais enfin, ça, ce sont mes maladies intimes d'acteurs. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui n'ont pas de pudeur. Moi, j'en ai énormément. Enfin, pas de pudeur, c'est-à-dire que il y a même des acteurs qui peuvent apprendre par cœur très vite et puis réciter ou dire. Mais moi, je suis tellement inquiet, non pas de ce que penserait Shakespeare, parce que j'ai déjà joué une pièce de Shakespeare. C'est la seconde que je joue, donc je le connais un peu et je dois dire qu'en jouant, je me régale énormément avec lui. Mais alors, comme vous parlez de comment vous avez fait pour jouer ça, je vous ai répondu parce que à part Shakespeare qui m'entraîne merveilleusement. Le regard, l'oreille, les oreilles du réalisateur m'inquiètent beaucoup. J'ai énormément besoin de lui pour qu'il me guide. J'ai énormément besoin de savoir ce que mes partenaires vont faire devant moi, comment ils vont me répondre, comment je vais donc devoir leur répondre à mon tour. C'est de plus en plus douloureux, les répétitions. J'ai un trac épouvantable. Je n'ose pas exécuter. Je n'ose pas dire que je suis en train d'inventer, toujours avec Shakespeare. Alors voilà, ça a été 2 mois très difficultueux. Il y a eu aussi la période où il fallait apprendre par cœur, la mémoire stupide de l'acteur, je dis bien la mémoire mécanique, mais bête. Moi, je suis admiratif de la mémoire des personnes qui ont fait des études, qui se rappellent de ce dont il faut se rappeler à tout prix et ce qu'on en a le droit d'oublier, ou même qu'il faut oublier. La mémoire des personnes qui lisent et qui peuvent vous dire à telle page il y a telle chose, dans tel poème il y a tel vers. Je suis ignare, j'ai une mémoire idiote, j'ai une mémoire mécanique, j'ai une mémoire, c'est comme une plomberie. Voilà, ma mémoire c'est une plomberie, je suis plombier et je soude les tuyaux. Et dès que enfin il a fallu se lancer dans le jeu proprement dit, devant les spectateurs, là je suis libéré parce que j'ai tellement emmagasiné d'informations que je réussis à les oublier et là à inventer. Enfin inventer, C'est assez prétentieux de dire ça. Je ne crois pas qu'un comédien invente. Non, nous n'inventons pas. Nous faisons croire que nous inventons. Je veux dire, un spectateur tout à fait innocent, entre guillemets, pourrait croire que c'est moi qui ai écrit Le Roi Lear, que c'est nous qui avons écrit Le Roi Lear, que c'est moi qui ai dirigé les lumières, etc., que c'est moi qui ai décidé d'aller à gauche ou d'aller à droite sur le plateau. Non. Mais, du moment où je suis devant le public, où enfin je peux me libérer de toute l'angoisse que me crée le travail de... d'emmagasinement de qu'est-ce que la pièce, qu'est-ce que ce texte, pourquoi je n'arrive pas à apprendre cette phrase-là par cœur, etc. Une fois que je suis libéré de tout ça, j'ose dire, je jouis comme un poisson dans l'eau. Et ça, c'est une grâce que m'a donnée le bon Dieu du théâtre. C'est qui le bon Dieu du théâtre? Vous pouvez me répondre, tiens, à propos.
La servante.
La servante. Mais quelle servante?
La lumière qui ne s'éteint jamais sur un plateau de théâtre.
Ah, c'est beau, oui, mais la servante est là la nuit. La servante est là quand les lumières s'éteignent et que les acteurs... Ah, tiens, il y a un texte... Ça vous ennuie si je lis quelque chose?
Pas du tout.
Alors, c'est un texte d'un écrivain, poète, polonaise. Je ne la connaissais pas, on me l'a fait découvrir il y a peu de temps. Elle s'appelle Wisława Szymborska, vous la connaissez?
Pas du tout.
Elle a pourtant eu le prix Nobel il n'y a pas très longtemps. Voilà, un prix Nobel qui n'a pas fait parler d'elle, ou de lui, je ne sais pas comment il faut dire. Impression théâtrale. Pour moi, de toute la tragédie, rien ne vaut l'acte 6. Les morts ressuscitant après la bataille, les perruques repeignées, les robes époustées, les couteaux arrachés des cœurs, les nœuds coulants desserrés, les morts et les vivants en rang bien ordonné, face au public, saluts individuels et collectifs, main blanche sur un cœur qui saigne, la révérence de la suicidée, le hochement de la tête coupée, salut par deux, la fureur main dans la main, avec la bonté, la victime, l'œil tendrement plongé dans celui du bourreau, le rebelle sans rancune, avance près du tyran, la pantoufle dorée piétine l'éternité, moralité pesante qu'on chasse d'un coup de chapeau, le zèle incorrigible de recommencer demain. Les morts, en rang par deux, qui nous reviennent plus tôt après le troisième acte, entre les deux derniers, miraculeux retour d'éternels disparus, la pensée qu'en coulisses, ils attendaient leur tour, sans toucher au costume, sans effacer le phare, tout cela me bouleverse bien mieux que les tirades. Et le rideau qui tombe est une élévation, tout ce qu'on entrevoit, sous la frange fuyante, la main qui précipitamment saisit la fleur, ou l'autre qui s'empare du glaive abandonné, et c'est alors seulement qu'une troisième main, invisible, fait son office, me prenant à la gorge. Et là, ce n'est pas de moi. C'est de Wisława Szymborska. Et ce poème s'appelle Impression théâtrale. Alors, je l'aime énormément, ce poème, parce que on ne parle pas de la... magie splendide du théâtre, on parle des secrets, des gestes secrets, des saluts. Alors, voilà, ça y est, j'ai parlé du théâtre.
Je me souviens, à propos des saluts, dans cette représentation du Roi Lear mise en scène par André Engel, de la joie de la troupe, de ce collectif que vous formiez, vous tous, les comédiens, quand vous veniez saluer, on sentait un élan, on sentait une générosité, on sentait une solidarité, on sentait une réciprocité, on sentait un don entre vous aussi.
C'est très très juste, c'est très vrai. Je crois que c'est assez rare, parce que il y a dans la troupe que nous formons pour se lire avec Engel une espèce de d'écoute de l'un vis-à-vis de l'autre, une espèce de respect de l'un vis-à-vis de l'autre, qu'il joue le rôle titre, expression que je déteste, ou qu'il joue le trois fois trois servants différents, il y a en effet un plaisir de faire. Et aussi, il y a eu une telle inquiétude pour parvenir à ce que nous souhaitions faire, que d'entendre ou voir le public enthousiaste, enfin une grande partie, parce qu'on ne voit pas ceux qui discrètement s'en vont avant d'applaudir, pas seulement parce qu'il faut qu'ils rentrent chez eux ou attrapent l'avant-avant-dernier métro, mais parce qu'ils se sont ennuyés, ou qu'ils n'ont pas apprécié du tout. Mais c'est vrai que quand on salue, là, il y a un mouvement, un bonheur qui nous tombe sur la tête. Enfin, le bonheur nous est tombé pendant toute la représentation sur la tête et dans le cœur, mais là, on continue à l'offrir au public, à le partager avec le public, si vous voulez.
J'en reviens à l'enfance et à la composition de ce personnage que vous interprétez, qui côtoie l'enfance de manière dangereuse presque, alors qu'il sait qu'il est au bout de sa vie. Vous êtes un enfant né après un frère mort. Et vous avez l'impression, encore aujourd'hui peut-être, d'être vivant alors que votre frère est mort ?
Ah, de plus en plus, je dirais. Étant donné que je vais approcher, je n'approche pas, mais je vais, dans moins longtemps que le temps qui a passé depuis ma naissance et le temps qui a passé depuis la mort de mon frère qui m'a donné la vie, je veux dire que jusqu'à la fin des temps, en ce qui me concerne, qui vont être immenses, parce que j'ai passé un contrat avec Dieu. Je voulais vivre l'éternité. Je vous l'ai déjà raconté, ça ? Eh bien, une fois, j'ai rencontré Dieu par téléphone. Je lui ai dit, je voudrais vivre l'éternité. Je voudrais être éternel. Il m'a dit, là, vous exagérez. Ben, alors, on a discuté et il a dit, top là, tu vivras la moitié de l'éternité. Alors, je trouve que c'est un bon deal, comme on dit maintenant. Mais en ce qui concerne mon frère mort, oui, je suis en train, même depuis longtemps, de gratouiller une histoire. Je ne sais pas pourquoi je vous dévoile ça. Ça n'existera peut-être jamais. Mais j'ai très envie d'expliquer ma naissance grâce à ce frère mort à travers un livre qui, je crois, s'appellerait « Voyage d'enfance » au pluriel. « Voyage avec un S »,« Enfance avec un S ». Voilà. Et oui, je suis né grâce, c'est affreux à dire, je suis né par la mort de ce frère, parce que ça a été une douleur fantastique pour ma mère, qu'en plus, elle me l'a souvent dit, elle le disait souvent, que l'enfantement était une chose affreuse, douloureuse, et qu'elle ne voyait pas pourquoi les femmes se pâmaient devant cet acte splendide. Mais si ce frère avait vécu, pour des raisons donc de sensations profondes de ma mère femme, de la femme qui était ma mère, et aussi pour des raisons économiques, avoir deux enfants, ça aurait été lourd à entretenir. Et voilà, donc ils m'ont conçu grâce à cause de cette disparition d'un frère. Sinon, ils auraient toujours employé tous les moyens pour ne plus jamais concevoir.
Donc, vous avez eu l'impression, tout petit, d'être porteur de l'enfance de votre frère et de ne pas être singulier, qu'on ne vous a pas accueilli dans le monde comme un être singulier, qu'il fallait trouver votre place.
J'ai pas été accueilli comme un être singulier, j'ai été accueilli comme un être de remplacement, ce que je ne reproche absolument pas. Je n'en souffre pas, je n'en suis pas triste, je n'en suis pas furieux. Non, je trouve que c'est une chance admirable d'être né malgré des désordres et des douleurs insurmontables. Voilà.
Mais vous étiez un enfant taiseux.
Très taiseux, oui. Mais je le suis toujours. Enfin non, nous parlons ensemble depuis quelques minutes, là, et je suis beaucoup moins taiseux. Mais j'étais un enfant taiseux, c'est vrai. Mais j'ai peut-être réussi à parler grâce à l'écoute que, enfin, j'ai réalisé des adultes devant une histoire que je racontais, qui n'était pas mon histoire, qui n'était pas un secret que j'avais envie de dire, qui n'était pas des questions que j'avais envie de poser. C'est quand, assez petit, à l'âge de 9 ans, je crois, j'ai fait du théâtre dans mon collège et que j'ai joué la comédie et que j'ai été émerveillé d'entendre les adultes se taire et écouter ce que je racontais. Et comme je racontais une histoire qui n'était pas mon histoire propre, intime et secrète, je me suis régalé. Et après cet événement de cette représentation théâtrale numéro un de ma carrière, comme disent les professionnels, je pourrais dire de la profession, mais là, c'est pas de moi. Ma mère m'a dit « Mais tu n'as pas eu peur ?» Et j'ai répondu « Au contraire ». Alors, voilà, mon chemin était tracé, mais je ne le savais pas. C'est 10 ans après que j'ai osé dire et me dire à moi-même que je voulais faire ce métier alors que j'ignorais totalement ce que ça voulait dire, qu'être comédien ou acteur ou cabotin.
Et maintenant, vous le savez ?
Oui, je sais, je vous l'ai dit, je sais pourquoi... ces virus m'est rentré tout de suite dans le cœur d'être l'intermédiaire des merveilleux penseurs ou écrivains qui font du théâtre et qui vous racontent des histoires fantastiques. Voilà, alors mais je ne sais toujours pas si c'est si c'est un métier, si c'est pas la farce d'un métier, vous comprenez? La farce d'un métier. Faut être farceur pour être acteur. Faut pas être solennel. Faut pas se dire qu'on est créateur. C'est pas vrai. On est créateur à deux. Au moins avec l'auteur et aussi avec le metteur en scène. Ça fait 3. Et aussi avec le partenaire. Ça fait 4.
Et avec le public, ça fait 5.
Avec le public, vous avez raison. Mais... on donne au public une chose toute faite, toute prête, et le public l'accueille, le transforme, le malaxe, s'en réjouit, au contraire, se referme devant ce qu'on raconte et ce qu'on montre, mais ça ne nous appartient plus, ça appartient au public. Il y a une relation très intime avec le public, mais qui est intime avec le public? Est-ce que c'est l'auteur ou est-ce que c'est le comédien? Mais le public croit que nous, comédiens, nous inventons tout ce que nous disons.
Mais c'est comme un sacrifice aussi, où le public assis sur des gradins et les comédiens sur la scène communient dans le même rite.
Je ne crois pas. Je crois que... l'imaginaire de l'écrivain, de l'auteur, et l'imaginaire un peu du comédien ne sont pas forcément en osmose avec l'imaginaire du spectateur. Le spectateur peut écouter, admirer, et ça le fait aller dans des chemins que peut-être on ne soupçonne pas, dans des chemins très divers. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait mieux être seul quand on assiste à un spectacle. C'est-à-dire d'être seul avec cette splendeur, entre guillemets, que l'on est venu écouter ou entendre, que ce soit de la musique ou que ce soit du théâtre. Parce que être accompagné, comme on dit, avec son compagnon ou sa compagne ou n'importe quel autre compagnon, il y a une espèce de fluide qui passe entre les deux qui vous trouble. Vous comprenez? Ça vous trouble parce que on guette la réaction intime de son compagnon qui est avec vous au théâtre. On imagine ce qu'il peut ressentir. Vous comprenez? Et ça, je crois que ça encombre la jouissance complète du spectateur devant quelque chose. C'est ma sensation propre. Mais je suis sûr que pour tout le monde, le voisin intime avec lequel on va écouter quelque chose, que ce soit de la musique ou que ce soit un texte, encombre. Je trouve qu'il faudrait aller ensemble, mais pas l'un à côté de l'autre.
Vous avez parlé de tête d'affiche tout à l'heure, Michel Piccoli. Vous ne vous revendiquez pas comme une tête d'affiche. Vous vous mettez toujours à égalité avec les autres compañeros, que ce soit dans le cinéma ou dans le théâtre. Et en même temps, vous jouez le rôle-titre dans ce Roi Lear. Et on a l'impression que plus vous avancez dans votre vie, plus vous vous abandonnez à prendre des risques.
Il n'y a que ça qui m'a vraiment motivé ou intéressé ou amusé, c'est de prendre des risques. En faisant ce métier de comédien, en faisant les métiers de ce qu'on appelle créateur, je ne suis pas un créateur, mais je travaille avec des créateurs. Je crois qu'il faut chercher les risques que le créateur peut inventer, imaginer, et que si être comédien, c'est simplement pour vous raconter le quotidien, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi. Mais je crois que c'est ça pour toutes les relations humaines, que ce soit la vie des couples, comme on dit, amants ou mariés, ou les deux en même temps, ça peut arriver, hein. Heureusement. Je crois qu'il faut toujours être bouleversé par les secrets fulgurants que l'autre a dans le cœur et dans la tête, voilà.
Ce rôle de Roi Lear, vous l'avez refusé pendant 10 ans. Pourquoi l'avez-vous accepté, finalement ?
Je l'ai refusé, c'est beaucoup dire. J'étais bouleversé par la fidélité du metteur en scène André Engel. En effet, il y a 12 ans, quelque chose comme ça, je lui ai expliqué que pour moi, jouer le Roi Lear, il y a donc 12 ans, ça me faisait un peu peur, que parce que c'était une sorte de décoration. Vous savez, Lear, c'est un rôle, Shakespeare, c'est un rôle qui n'est attribué d'abord qu'aux personnes d'un certain âge. Et en plus, c'est comme un point d'orgue d'une carrière. Ça me faisait peur. Point d'orgue d'une carrière plus décoration, c'était trop. J'ai dit non. Voilà. Et 12 ans après, le metteur en scène André Engel me dit « Est-ce que nous pourrions nous voir ?» Je dis « Oui, on se voit. » Il me dit « Bonjour, bonjour. » Un silence et il me dit « Alors, Lire. » J'ai répondu « Oui, parce que cette fidélité de 12 années était imparable. » Et puis, j'avais passé l'âge de la coquetterie, de l'âge.
Merci Michel Piccoli, on se retrouvera demain, si vous le voulez bien.
Alors à demain. Thank you.
retrouverez demain la suite de cet entretien enregistré en 2006 entre Laure Adler et Michel Piccoli, récemment disparu. À voix nue, réalisation Véronique Samouilov, Laurent Polleret. Attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.